Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Les élections législatives indiennes ont duré 6 semaines. 900 millions d'électeurs étaient appelés à se prononcer jusqu'à dimanche dernier. Le dépouillement a eu lieu jeudi. Le BJP, le parti nationaliste indien, et son chef, le premier ministre sortant Narendra Modi, sont sortis victorieux de ce scrutin. Un triomphe même, tant la victoire semble large. De son côté, le parti du Congrès de Nehru et d'Indira Gandhi subit une défaite sans appel. Le parti couleur safran, le BJP, Narendra Modi, son chef incontesté, l'homme à la barbe blanche et aux fines lunettes, vont donc rester aux affaires pour les 5 prochaines années. Alors on se demandera dans cette émission quelles vont être les conséquences économiques de ce scrutin, quelle sera la politique économique qui sera suivie dans un des 2 pays les plus peuplés de la planète. On se posera la question au regard des résultats parfois jugés ambigus, des décisions économiques arrêtées par Narendra Modi depuis 2014. Tout cela avec 3 invités que je vous présente maintenant. Bonjour Isabelle Joumard.
Bonjour.
Isabelle Joumard, vous êtes économiste à l'OCDE, où vous suivez les économies tunisiennes et indiennes. Et avec vous dans ce studio, Joël Ruet, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Boris.
Joël Ruet, vous êtes le président de The Bridge Tank, un think tank qui réfléchit à la mondialisation. Vous êtes aussi chercheur au CNRS. À ce double titre, vous êtes très souvent en Asie. Enfin, je termine ce tour de table par vous, Jean-Luc Racine, bonjour.
Bonjour.
Jean-Luc Racine, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur senior dans un think tank parisien qui s'appelle Asia Center et qui dit bien son nom. Alors au cours de cette émission des reportages également, nous allons retrouver à 2 reprises notre correspondant en Inde, Sébastien Farsi. Alors on est dans une émission économique, cela ne vous a pas échappé, mais on va commencer par une brève analyse politique des résultats électoraux en Inde, parce qu'ils sont naturellement la clé de la politique économique qui sera suivie dans les 5 années à venir. Comment lisez-vous ces résultats, Joël Ruet, cette victoire annoncée triomphale de Narendra Modi du Parti nationaliste indien ?
Victoire annoncée, mais moi je crois que c'est une surprise quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la première fois, c'est une première historique. Dans l'histoire de l'Inde indépendante, dans l'histoire de l'Inde démocratique, un premier ministre en exercice est réélu avec un score supérieur à sa première élection. Il y a eu des premiers ministres réélus, bien sûr, mais avec un score supérieur, c'est quand même une première historique. Donc il y avait une victoire annoncée, mais dans ces marges-là, avec cette avance-là, je crois que c'est quand même assez impressionnant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je crois que le bilan économique a été... Ce qui est frappant dans une émission économique, c'est que le bilan économique a été assez peu discuté. Ça s'est transformé en référendum politique, quasiment sur la personne du Premier ministre. Et du coup, ça assoit une prééminence politique du BJP qui, cette fois-ci, devient vraiment un parti national. Ce qui lui donne, non pas les pleins pouvoirs, parce qu'on reste dans une démocratie, mais ce qui lui donne des marges de manœuvre peut-être pas rencontrées en Inde depuis très longtemps, depuis Jawaharlal Nehru.
Isabelle Joumard, votre analyse, vous, de cette élection, de ce résultat ?
Alors moi, je vais penser plus en termes d'implication pour l'économie. Je pense que la forte majorité qu'obtient le BJP, qui est surprenante en effet, mais devrait pouvoir se traduire par une capacité réellement à passer des réformes. Et c'est quelque chose qui est important pour l'Inde, parce que c'est un pays en profonde transformation structurelle qui a besoin d'un processus de réforme profond. Et donc, c'est un élément qui potentiellement est positif quand même de cette capacité à dépasser les blocages qu'on a souvent constatés en Inde.
Jean-Luc Racine, on a vu que les marchés boursiers indiens ont bondi à l'annonce des résultats dès les premières estimations. Est-ce que c'est une confirmation de ce que dit Isabelle Joumard, c'est-à-dire les milieux économiques sont satisfaits de voir cette large victoire?
Bon, rappelons-nous le général de Gaulle, la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. Est-ce que la politique indienne se fait à la bourse de Bombay? Que les indices boursiers, les deux grands indices boursiers indiens, aient bondi de 1,5 ou 2% hier, aujourd'hui, je ne sais pas, c'était attendu. De la même façon, on entend dans les cercles américains des économistes libéraux le renouvellement des grands espoirs qui sont portés à l'égard de Narendra Modi. Mais on avait un peu la même chose en 2014. Et ce qu'observe, et là je parle délibérément d'économistes libéraux, il y a des think tanks américains qui sont spécialisés sur cette question, qui dressent des bilans. Leur bilan sur Narendra Modi, c'était, il a fait un certain nombre de réformes significatives, mais essentiellement au début de son mandat et jusqu'en 2017. Donc, il y a une aspiration des classes dirigeantes et des leaders de l'économie, mais reste à savoir si un mandat renouvelé va permettre ou pas de résoudre le dilemme qui est un dilemme depuis le lancement de la libéralisation en Inde. Est-ce que c'est croissance et développement ou est-ce que c'est croissance sans développement ?
C'est un bon thème pour l'émission, mais de quelle libéralisation parlez-vous là ?
Ben, la libéralisation, la ligne néolibérale. Alors, on sait bien que Modi essaie de trouver un équilibre, mais il n'est pas le seul sur la planète, entre un nationalisme de plus en plus affirmé et la place de l'Inde dans la mondialisation. Pour les ultralibéraux, on considère que l'Inde a toujours besoin de réformes. On entend par exemple la nécessité de réformer les lois sur le travail. Mais enfin, on est dans un monde où 80 à 85% des travailleurs, paysans inclus, sont dans le secteur informel.
Quand vous dites dans un monde indien.
Dans un monde indien.
Oui,
hein, oui, dans un monde indien. Au sein même de la famille politique du nationalisme hindou, il y a des think tanks établis de longue date qui sont très prudents sur une libéralisation qui irait trop loin. Mais c'est un enjeu majeur pour le gouvernement.
Isabelle Joumard, est-ce que vous vous sentez visée, concernée en tant qu'OCDE quand vous entendez cette critique implicite par Jean-Luc Racine des milieux libéraux, des think tanks libéraux?
Je crois que depuis plusieurs années, l'OCDE porte la notion de croissance inclusive et je dirais qu'elle s'applique effectivement à l'Inde, c'est-à-dire que le Premier ministre et son gouvernement ont pris tout un ensemble de mesures pour relancer la croissance, pour relancer l'investissement et promouvoir des gains de productivité. Et j'ai envie de dire que ça a eu un effet positif, mais je crois que maintenant, il est réellement temps de, effectivement, faire face aux défis sociaux, aux très fortes inégalités, question de capital humain, d'accès aux services publics. Et c'est vraiment des notions que porte l'OCDE. Donc non, je répondrai, il n'y a pas d'antagonisme. On porte le projet d'une... c'est pas croissance ou inégalité, je pense qu'on peut promouvoir la croissance en réduisant les inégalités et des fois ça va de pair quand on pense par exemple à l'éducation, à l'accès à la santé, c'est quand même des projets qui normalement sont aussi favorables au bien-être et à la croissance de l'économie.
Joël Ruet.
Je crois qu'il y a un consensus aujourd'hui sur le fait qu'il faut une croissance inclusive parce que sinon il n'y aura pas de transformation à long terme, ce fameux dividende démographique dont tout le monde parle, dont les gouvernements précédents en Inde avaient déjà parlé, on ne l'aura dividende démographique, c'est-à-dire avoir une majorité de la population qui est en âge de travailler et donc être dans une situation historique où vous n'avez plus soit un pays massivement jeune et vous n'avez pas encore un pays vieillissant comme ça va être le cas de la Chine par exemple. Bon, c'est un moment historique dans une nation pour se transformer et arriver à un niveau de revenu intermédiaire. Tout le monde est conscient que ça ne se fera que par une croissance inclusive, du développement comme disait Jean-Luc Racine, et puis j'allais dire au-delà de ça une croissance avec un contenu en emploi. Bon, l'un des leviers, c'est clairement l'éducation. L'éducation, c'est un enjeu de long terme. C'est pas en 5 ans que ça se met en place. C'est pas en 10 ans. Il faut un consensus. Mais je crois qu'il y a un consensus. On y reviendra à l'éducation, je pense. Mais ce que je voudrais dire sur la question du libéralisme, c'est je crois que les thèses néolibérales ou le libéralisme à tout craint n'a jamais fait prise, n'a jamais fait racine, ni à New Delhi, ni à Bombay. On a toujours été dans un libéralisme relativement régulé, y compris avec des partis nationalistes au pouvoir, y compris avec des partis étant vu comme de droite, vu de France, qui veut pas dire grand-chose, le rôle de l'État, la discussion entre l'État et les industriels a toujours été importante. Je crois que le libéralisme, qui est un peu mort, y compris aux États-Unis, hein, le gouvernement revient dans les affaires, ce libéralisme-là, mort au niveau mondial, n'a jamais fait prise en Inde. Donc je crois qu'on va aujourd'hui, je suis d'accord, approfondir des réformes. Un point sur les réformes qui ont été mises en place.
On va y revenir, si vous voulez, on va retrouver Sébastien Farcy, parce que le reportage qu'on va écouter revient, explicite, détaille ce que vous dites tous les trois depuis le début de l'émission. C'est un reportage qui est consacré à la situation économique de la population indienne, un pays qui affiche une croissance économique qui, pour nous, Européens, semble insolente, officiellement 6 à 7% de croissance. Le PIB indien vient même de dépasser celui de la France. Ce serait donc, selon ces chiffres, la 6e économie mondiale. Mais cela semble insuffisant pour améliorer le sort de ses habitants. Le quart de la population indienne vit encore sous le seuil de pauvreté. Les mesures de Narendra Modi au cours des dernières années ont surtout visé à faciliter l'implantation des multinationales. Alors on reviendra sur ce thème du libéralisme. Mais rien pour les petits commerces qui emploient la majorité des travailleurs et qui ont souffert. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Sébastien Farcy en Inde.
Germain Haro est un entrepreneur enthousiaste. Il est en charge de l'implantation en Inde d'une usine de la marque française de sirop Monin. Et ces dernières années, il a vu le climat des affaires se simplifier énormément.
Tout a été digitalisé en termes du processus d'incorporation des sociétés. Créer une filiale une fois que tous les documents sont prêts, aujourd'hui, ça peut prendre quelques jours uniquement. Le financement également a été simplifié par la Banque Centrale Indienne. Et un des gros efforts en termes de réforme du gouvernement en place au niveau central, ça a été la mise en place de la GST. La GST qui est un principe similaire à la TVA française, puisque avant l'Inde n'était pas une économie unifiée et la fiscalité indirecte est extrêmement complexe. Donc pour des entreprises qui sont dans ce secteur organisé, c'est une révolution.
La GST a en effet facilité la circulation des biens entre les États fédérés. Il n'y a plus maintenant de douane intérieure. Or, ces points de passage représentaient un vrai calvaire pour les commerçants. Les fonctionnaires pouvaient immobiliser les camions s'il manquait un papier et cela était la source d'une importante corruption. L'utilité de cette TVA nationale est donc reconnue par tous, mais le problème a été sa mise en place. Le gouvernement a en effet créé 5 différents taux et plusieurs sous-catégories. Une vraie usine à gaz, comme l'explique Rajat Sika, directeur de Saivana, une société d'export de prêt-à-porter.
I am very sure, knowingly or unknowingly.
Je suis sûr que, volontairement ou involontairement, je suis en train de violer certains aspects de cette GST. Et cela fait très peur, car dans 5 ans, le gouvernement peut décider de me poursuivre pour ces erreurs. Le problème, c'est que même les experts de la GST nous donnent différents avis. Je pense que, comme tout nouveau système, il y a des problèmes au démarrage. Et cela nous cause ces ennuis.
It will take time.
Cette réforme fiscale a frappé encore plus durement les petits commerçants, car ces derniers n'ont souvent pas d'ordinateur ou les moyens d'engager de comptables pour réaliser ces calculs compliqués. Cela veut dire qu'une partie de ces sous-traitants se retrouvent maintenant exclus de la chaîne d'approvisionnement. Ces PME ont également été frappés de plein fouet par une autre mesure ordonnée par le Premier ministre en novembre 2016, la démonétisation. Ce retrait soudain des grosses coupures a fait dérailler l'économie indienne qui tourne en liquide. Témoignage d'Ashish Agrahari, marchand de roulements à billes pour automobiles dans la micro-entreprise familiale de 3 personnes située à Benares.
Toutes nos transactions se font en liquide et à cette époque, tout le liquide avait disparu. Personne ne pouvait acheter même 120 euros de pièces. Cela a complètement détruit notre commerce pendant 6 mois. Ceux qui opèrent en dehors des villes ont souffert pendant 1 an, car les nouveaux billets ont mis du temps à arriver jusqu'à eux. Notre chiffre d'affaires était de 31 000 euros par an avant la démonétisation de fin 2016. Il a chuté à 19 000 euros l'année d'après. Et maintenant, au bout de 2 ans, nous venons à peine de retrouver notre chiffre d'avant la démonétisation.
Ces PME du secteur informel emploient l'essentiel de la main-d'œuvre non agricole en Inde, donc le ralentissement de leur activité a également fait exploser le chômage. Selon les statistiques publiques, le chômage a été multiplié par 3 en 6 ans pour atteindre son plus haut niveau depuis 45 ans. Pendant ces 5 dernières années, le gouvernement de Narendra Modi a également déployé un programme d'industrialisation de l'économie appelé Make in India et destiné à attirer les investissements directs étrangers. Cependant, ces derniers n'ont pas décollé et surtout, ceux qui ont été réalisés n'ont pas créé un grand nombre d'emplois, comme l'explique Ravi Srivastava, professeur d'économie à l'université Jawaharlal Nehru à New Delhi.
It would have been very good if FDI came in.
Il aurait été bien que ces investissements directs étrangers soient réalisés dans des secteurs qui créent de l'emploi, comme la construction. Or, cela n'est pas arrivé ou de manière marginale. À la place, c'est allé dans l'exploration pétrolière, par exemple, où le travail est mécanisé. Il faut aussi considérer que ces investissements peuvent détruire des emplois. Par exemple, quand des entreprises chinoises ouvrent une grande usine de production de téléphones mobiles en Inde, cela a un impact sur les producteurs indiens. Ils étaient jusqu'alors en pleine croissance, mais maintenant, ils ne peuvent pas leur faire concurrence et leur part de marché a fondu.
Le professeur Srivastava estime qu'entre 5 et 6 millions d'actifs arrivent sur le marché de l'emploi chaque année en Inde. La plupart sont de jeunes diplômés. Or, le secteur des services, qui représente le moteur de la croissance indienne, ne peut absorber ce très grand nombre de travailleurs.
Un reportage signé Sébastien Farcy en Inde. Isabelle Joumard, vous avez vu l'écouter avec beaucoup d'attention, prendre des notes. Est-ce qu'il dresse un bilan équilibré de cette situation économique ou est-ce que il noircit le tableau, Sébastien Farcy, parce que quand même 45% de chômage du jamais vu depuis plusieurs années, c'est énorme.
Le taux de chômage, selon les chiffres qui sont pas encore officiels, n'est pas de 45%, mais plutôt de 6%. Par contre, il y a un taux d'emploi vraiment massif. Ça, c'est, on est d'accord.
C'est-à-dire chômage à 6% du pays, de la population économique active.
Oui. Oui.
Pardon.
Oui, c'est ça.
C'est en fait,
je veux dire, les chiffres officiels du chômage, pour qui connaît l'Inde, je veux dire qu'il y a 6% de chômeurs, voilà. Ça ne veut rien dire. Oui. En réalité, on a des classes d'âge en âge de travailler. Là-dedans, combien travaillent dans le secteur formel, combien travaillent dans le secteur informel, combien ne travaillent pas. Et ceux qui n'ont pas d'emploi, ou ceux qui ont des emplois extrêmement fragiles, c'est évidemment bien plus que 6%.
Isabelle Joumard.
Oui, non, je suis d'accord avec l'analyse qu'en fait le chiffre de chômage dans les pays émergents, c'est compliqué puisqu'en fait on sait plutôt effectivement le sous-emploi qui est le vrai problème puisqu'il n'y a pas de mécanisme d'assurance chômage. Il y a eu un processus de croissance relativement forte, mais une croissance sans emploi. Et c'est quelque chose qui est inhérent et qui se reflète aussi dans la structure de l'économie indienne. C'est-à-dire que c'est une économie dans laquelle on a le secteur agricole qui reste très important, mais finalement le secteur industriel qui ne s'est pas bien développé. C'est comme ça qu'on peut comprendre aussi les réformes de Modi, c'est de vouloir relancer le Make in India. L'idée c'était de relancer l'industrie et donc de créer de l'emploi.
Joël Ruyat, pourquoi est-ce que l'industrie ne se développe pas en Inde? Pas assez en tout cas.
Non, mais l'industrie va se développer, est en train de se développer, parce que précisément, il y a des réformes. Moi, j'ai un problème de fond avec le début, la première moitié de ce sujet.
Je
me permets de l'expliciter parce que ça touche à des fondamentaux de l'économie indienne et de sa transformation et de sa modernisation aujourd'hui. On nous présente les problèmes de la taxe. Il y aurait soi-disant une usine à gaz. Il y a plusieurs niveaux. Bon, en France aussi, il y a plusieurs niveaux de TVA. Il y a eu pendant assez longtemps. Faut se mettre à l'aise. Mais surtout, ce qu'il y avait avant, c'était ni plus ni moins que des barrières d'octroi d'une province à l'autre, etc. Les barrières d'octroi, c'est dans le contexte européen une taxe qui date du Moyen-Âge, dans le contexte français une taxe qu'on a supprimée depuis le milieu du 19e siècle, donc l'Inde légitimement ne voulait plus continuer avec une taxe comme ça. Donc il y a une modernisation, ça prend un temps, qu'il y ait eu une année pour s'adapter me paraît pas choquant. La question de la démonétisation, on peut revenir en détail sur l'impact social, mais c'est fondamental. Quand on entend des entreprises...
La démonétisation, faut le rappeler...
C'est-à-dire la sortie d'un certain nombre de billets. Bon, c'est vrai que beaucoup d'une partie de des grosses coupures, pour faire clair. Il y a une économie de corruption extrêmement forte en Inde qui se fait en cash. Alors, quand on entend un entrepreneur nous dire « Mais nous, on fonctionne en cash, c'est formidable, etc. », d'abord, ça cache beaucoup de corruption. Donc, la corruption, il en restera toujours, mais les zones de corruption étaient quand même très largement contrôlées. Et ça, vous êtes obligé de le faire quelque part d'une manière un peu soudaine. La vraie question, c'est en effet la création d'emplois. La création d'emplois a besoin de formalisation de l'économie. Parce que quand vous avez une économie informelle, vous avez des bénéfices, des profits qui vont à certains, il n'y a pas de taxation et ces bénéfices ne sont pas réinvestis en création d'emplois. Là où je suis d'accord, et pour votre question sur avec la fin du reportage, et votre question sur l'industrie, je suis d'accord que le gouvernement indien devrait être beaucoup plus proactif et attentif à ce que les investissements directs étrangers entrant aillent dans des secteurs à fort contenu en emploi. La Chine fait ça, par exemple. L'Inde devrait faire ça beaucoup plus.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons, vous l'aurez compris, de l'économie indienne au lendemain de la victoire du BJP de Narendra Modi aux élections législatives avec trois invités. Joël Ruet, chercheur au CNRS, président du think tank The Bridge Tank, que vous venez d'entendre. Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS. Et Isabelle Joumard, économiste à l'OCDE, spécialiste de l'Inde et de la Tunisie. Jean-Luc Racine, on a beaucoup parlé d'économie informelle depuis quelques minutes. Quel est son poids dans l'économie indienne? Est-ce que c'est une économie qui passe beaucoup sous les radars, qui échappe à la fiscalité? Quel est son poids?
C'est très difficile, puisque précisément elle est informelle.
Oui.
Donc la réponse est dans la question, si j'ose dire. Non, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce qui est défini grossièrement comme informel, il y a à la fois des petites entreprises qui vont payer leurs salariés en cash. Il va y avoir le marchand de cigarettes dans sa cabane au coin de la rue, et puis il va y avoir des agriculteurs ou des ouvriers agricoles. Donc c'est très difficile de définir ce qu'est le poids. C'est un poids qui est évidemment qui n'est pas à la hauteur du nombre des personnes concernées, mais qui est loin d'être négligeable. Et puis surtout, tout cela donne à la fois un flou dans le fonctionnement de l'économie, mais aussi fragilise une part considérable de la population. Et quand on parle de croissance inclusive, on ne peut pas ne pas se référer à cela aussi. Mais croissance inclusive, le gouvernement de Manmohan Singh du Parti du Congrès en place de 2004 à 2014 en avait fait son slogan. Donc tout le monde parle de croissance inclusive, il n'y a plus qu'à la réussir.
Il n'y a plus qu'à.
Il n'y a plus qu'à.
Isabelle Joumard.
Oui, juste quelques chiffres sur l'économie informelle. Alors effectivement, elle est difficile à mesurer, mais juste quelques notions. Si on regarde le secteur manufacturier, c'est 99% des entreprises sont de petite taille ou informelles. C'est 80% de l'emploi et c'est seulement 20% de la valeur ajoutée. Donc ce qui donne bien une idée qu'en fait, c'est beaucoup de monde, beaucoup d'entreprises, très peu productives, et donc ça veut dire que les gens qui y travaillent ont des revenus qui sont faibles. Et donc c'est vraiment un problème, et ça a au cœur, j'ai envie de dire, des inégalités en Inde. C'est cette espèce de segmentation de l'économie avec deux secteurs qui cohabitent et qui sont avec des conditions complètement différentes.
Alors, vous, je l'ai signalé au début de l'émission, Isabelle Joumard, à l'OCDE, vous travaillez sur l'Inde et sur la Tunisie. Est-ce que cette informalité indienne, elle ressemble à l'informalité tunisienne ou est-ce qu'il y a beaucoup de différences?
L'Inde et la Tunisie se ressemblent par certains aspects.
Oui, mais parce qu'il y a un pays qui a un géant et démographique, puis il y en a un autre qui ne l'est pas.
Oui, alors j'ai envie de dire, il y a un point de convergence, c'est probablement dans la prolifération des réglementations et les exigences, notamment en termes de fiscalité, qui poussent des petites entreprises qui sont peu productives dans la formalité. Donc ça, c'est un point de convergence, un point de similarité entre l'Inde et la Tunisie. Néanmoins, une différence majeure entre l'Inde et la Tunisie, c'est la question de l'éducation. La Tunisie, depuis des décennies, en commençant par le règne de Bourguiba, a réellement voulu éduquer la population. Et donc, il y a un vrai capital humain en Tunisie qu'on retrouve beaucoup moins en Inde. Donc ça, c'est une différence majeure.
Joël Reest, un point sur lequel vous avez évoqué au début de l'émission, la formation. C'est un des problèmes que rencontre l'Inde pour se développer, pour créer cette croissance inclusive dont on parle, croissance et développement, disait Jean-Luc Racine. C'est un problème majeur?
Oui, alors si vous voulez, il y a la formation au niveau d'éducation, mais il y a aussi la formation professionnelle. Et je rebondis tout à fait sur les chiffres qui viennent d'être donnés. Ce problème dans l'industrie qui est la base de la modernisation, enfin l'une des bases de la modernisation, où vous avez 20% de la valeur ajoutée qui vient de 99% des entreprises, soulève un autre problème qui est celui du lien entre ce monde de l'industrie informelle et le monde des grandes entreprises, y compris des multinationales indiennes. Ce sont pas simplement deux mondes qui s'ignorent, qui sont en parallèle, qui fonctionnent différemment. Il y a un lien cardinal entre une partie de ces 99% et les grandes entreprises, les très grandes entreprises que nous connaissons en France, les Tata, les Reliance et de nombreux autres, HEC, etc., HCL. Ces entreprises, une partie de ces entreprises informelles sont le fournisseur, alors peut-être pas au rang 1, mais peut-être au rang 2, au rang 3, c'est-à-dire le fournisseur du fournisseur du fournisseur de ces grandes entreprises. Donc une grande
sous-traitants.
Sont des sous-traitants. Donc ce qui veut dire qu'une partie non négligeable de la compétitivité mondiale des grandes entreprises multinationales indiennes qui s'internationalisent est extraite de ce monde informel, qui ne se formalisant pas, n'arrive pas à former à faire de la formation professionnelle de ses employés, et donc à créer de nouveaux emplois. Donc si vous voulez, il y a une inégalité interne aux entreprises également, qui est importante. Et moi je crois que ça c'est un des grands enjeux. Je crois qu'il y a une compréhension de ça qui s'affine. Il y a une dizaine d'années, il y avait des chercheurs comme Amitabh Kundu, économiste et spécialiste d'études urbaines à Jawaharlal Nehru, qui en parlait. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde. C'est un thème qui rentre dans l'industrie. Donc il y a une question d'inégalité entre les entreprises indiennes.
Est-ce qu'on peut donner un exemple, illustrer ce que dit Joël Auruet, c'est-à-dire le chemin économique de la petite unité économique quasi informelle jusqu'au géant Tata, Isabelle Joumard?
Ben moi, un exemple qui me vient à l'esprit, c'est quand on est à Mumbai, il y a
à Bombay en français.
À Bombay, oui. Dans un bidonville, il y a vraiment une organisation autour du lavage du linge. Et vraiment, on peut visiter ça, c'est incroyable. Et on se rend compte que les gens sont vraiment dans les bassins et ils lavent les draps des hôtels, des grands hôtels 5 étoiles. Donc, on voit bien l'imbrication, effectivement, là d'une économie luxueuse, débordante,
mondialisée.
Oui, avec des gens qui n'ont aucune protection sociale, qui sont dans l'eau en train de laver entre 2h et 7-8h le matin dans des conditions difficiles.
Donc certains de ces grands hôtels font partie des grands groupes conglomérats indiens, il faut le rappeler. Donc c'est pas... Il y a une connexion directe. Hein.
Peut-être, Joël Auruet ou Jean-Luc Racine, faut-il donner une image du poids de ces grands groupes dans l'économie indienne? Quels sont-ils? Que fabriquent-ils? Quels sont les secteurs qu'ils embrassent?
Pour être concis, je dirais que d'abord, beaucoup de ces grands groupes sont issus d'initiatives familiales qui se sont prolongées 2, 3 ou 4 générations. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ça oblitère la formation des dirigeants, parce que l'héritier d'un grand groupe va aller passer son MBA aux États-Unis avant de revenir. Et on voit chez Tata en particulier que maintenant les dirigeants ne font plus simplement partie de la famille. On a le groupe Reliance qui a été puisque maintenant il y en a deux, entre les frères ennemis, qui eux n'ont qu'une génération, donc c'est un groupe nouveau.
Dire, oui, mais Tata, c'était d'abord de l'automobile.
Oui, mais fondamentalement, ils font de tout.
Ça veut dire quoi?
Mais ça veut dire tout, il touche à tout. Tata fait aussi bien des savonnettes
que
des camions, que de l'acier, que de l'informatique. Godrej fait les fameuses armoires métalliques qu'on voit dans toutes les maisons indiennes de la classe moyenne, mais il fait 1000 autres choses.
De la chimie.
Reliance, Isabelle Joumard.
Communication, finance.
Pétrole.
Oui. Au départ, pétrole. Et ça se termine aujourd'hui par les télécoms.
C'est-à-dire que c'est un capitalisme par capillarité, un capitalisme horizontal. Ce sont des groupes qui s'étendent.
C'est un capitalisme qui fait beaucoup de profits et qui a eu l'intelligence, dans sa propre logique, de diversifier ses sources de revenus et de se saisir de marchés prometteurs. Et là, la question est évidemment de savoir quels sont leurs liens avec le politique. Parce que ça, c'est une question essentielle. Aujourd'hui, on parle de capitalisme de connivence qui lie Narendra Modi à de grands industriels du Gujarat en particulier. Parce que ces grandes entreprises indiennes, ce sont aussi, à leur façon, des multinationales.
Joël Auruet, quels engagements économiques a pris Narendra Modi au cours de sa campagne?
Je crois qu'il y a la volonté d'abord d'approfondir sur l'industrie, le Make in India, donc c'est-à-dire de faire venir des entreprises avec des savoir-faire étrangers, en partenariat ou pas avec des entreprises indiennes. Je crois qu'on est en train aujourd'hui de dépasser la voie du partenariat obligé des co-entreprises. Donc il y a un engagement de modernisation industrielle de l'Inde. Il y a aussi un engagement, j'allais dire, pour quelque part terminer le travail sur l'Indien pauvre ou l'Indienne pauvre. Modi reste convaincu que sa politique de démonétisation est bonne, y compris dans les campagnes, que ça a créé moins de corruption et plus d'accès, plus de chances pour les gens des campagnes. Il se rend compte aujourd'hui qu'il faut aussi moderniser l'agriculture. Il y a des débats, alors c'était un peu trop technique pour que ça rentre dans une campagne, mais il y a des débats dans ses équipes sur la question aussi de faire, d'avoir une agriculture peut-être moins intensive, enfin puis plus adaptée province par province, parce que l'Inde est un pays immense. Et puis sur la question des services, là je pense qu'on va vers de la dérégulation, là c'est plus libéral. Et dernier point, je crois qu'il est assez sérieux sur l'idée de continuer ce qu'il a mis en place il y a 2 ans, c'est-à-dire une loi de faillite, une loi de banqueroute. Il faut savoir que le contexte était que beaucoup de très grandes entreprises se devaient des sommes extravagantes les unes aux autres. Ça bloquait l'économie, ça bloquait la création d'emplois. Donc là, je crois qu'il y a, c'est vrai, il y a du capitalisme de connivence avec certains groupes, mais sur l'ensemble de la classe industrielle et des très grandes entreprises, il est en train de les remettre un petit peu au pas.
Isabelle Joumard, vous disiez au début de l'émission que cette large victoire allait permettre à Modi d'approfondir les réformes dont le pays avait besoin. À quoi faisiez-vous allusion ?
Très rapidement, après les résultats, ce qu'on a entendu, notamment de l'économiste en chef du gouvernement indien, c'est la réforme de la loi sur l'acquisition des terrains. Et effectivement, les réglementations...
Quand vous dites les terrains, c'est les terrains urbains, les terres agricoles ?
C'est les terrains sur lesquels on peut faire des travaux d'infrastructure et aussi des terrains pour des grandes entreprises.
C'est une réforme du foncier ?
C'est une réforme du foncier qui avait été inachevée, j'ai envie de dire, en 2013. Modi avait annoncé une nouvelle réforme dès le début de son mandat. Et finalement, c'est une réforme qui, politiquement, est compliquée, comme la réforme sur les réglementations du travail, et qu'il a dû abandonner. Et on peut... Alors, les réglementations sur le marché du travail, ce qu'il faut dire, c'est que c'est des réglementations qui sont nombreuses, et j'ai envie de dire tatillonnes, et qui, en fait, sont censées protéger les travailleurs, mais dans la réalité, ne couvrent que 10% de la population, 10% de l'emploi. Donc, c'est une façon aussi de comprendre le secteur informel, c'est que finalement, il y a un petit nombre de travailleurs qui sont protégés, mais la protection est trop forte pour qu'elle puisse couvrir les autres. Donc, il y a une réelle volonté de modernisation de la réglementation du travail pour qu'elle soit accessible à tous, quoi, qu'elle puisse couvrir un plus grand nombre de travailleurs. Ce qu'on sait du programme du nouveau gouvernement, c'est aussi un élargissement de ces réformes pour le revenu des agriculteurs, qui pour l'instant ne couvre que les petits agriculteurs et qui sera probablement élargi aux grands agriculteurs. Hein, on peut en discuter, c'est pas forcément une chose qui est positive à mon avis. La poursuite de la simplification des réglementations et des processus administratifs, avec la volonté réelle de s'améliorer dans le classement de la Banque mondiale sur le ease of doing business. Donc la volonté, c'est de passer parmi les 50 meilleurs pays. L'Inde partait du 142e rang en 2014 et actuellement au 77e rang. Il y a la simplification de la taxe sur le Good and Service Tax, donc de la TVA. Mmh. Voilà, c'est vraiment les grands axes qui ont été annoncés.
Alors c'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de l'économie indienne avec Isabelle Joumard, économiste à l'OCDE, Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS, et Joël Ruet, président du think tank The Bridge Tank, et lui aussi chercheur au CNRS. Vous avez tous les deux, Isabelle Joumard et Joël Ruet, parlé agriculture il y a quelques instants. Près de la moitié des Indiens actifs travaillent dans l'agriculture. Le problème est que la plupart d'entre eux ont du mal à vivre de cette activité. Stagnation des prix de revient, hausse du coût des engrais, endettement massif. La paysannerie indienne est en crise. Pendant la campagne électorale, les différents partis, BJP inclus, ont promis de leur venir en aide. Mais cela sera difficile et coûteux. Un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Sébastien Farcy, auprès des paysans de l'Est du pays.
En 2014, Abar Prasad Deor était comme beaucoup de paysans de son district de Mirzapur, à l'est de l'état de l'Uttar Pradesh. Il a cru aux promesses de Narendra Modi et a voté pour son parti nationaliste hindou du BJP. 5 ans après, cet agriculteur de riz et de blé en garde un souvenir amer et beaucoup de dettes.
Le gouvernement avait promis d'annuler toutes nos dettes, mais il ne l'a pas fait. J'ai donc dû hypothéquer une partie de ma terre et prendre un autre prêt afin de payer le premier. On s'enfonce dans la dette et eux, ils nous mentent pour avoir nos voix.
Depuis des années, la majorité des paysans indiens ne peuvent vivre de leur récolte, même avec un train de vie de misère. Selon le dernier recensement public, 82% des agriculteurs possèdent moins de 2 hectares de terrain et gagnent en moyenne 70 euros par mois, soit 2,30 euros par jour pour faire vivre généralement une famille de 5 personnes. Rajiv Prasad, paysan d'un village voisin, témoigne.
Avec les prix d'achat pratiqués, nous perdons de l'argent en faisant pousser du riz. En plus, le prix des engrais a augmenté, donc nous n'avons aucune épargne. Moi, je rêve de construire une maison en dur, car aujourd'hui, notre maison en terre peut s'écrouler quand il pleut.
Le parti du Congrès accuse le BJP d'avoir seulement œuvré pour les populations urbaines et les grandes entreprises. Et cette formation de Rahul Gandhi a donc promis lors de cette campagne de verser un revenu minimum garanti de 920 euros par an aux 50 millions de foyers les plus pauvres. Pour le candidat du parti dans la circonscription, Lalitesh Pati Tripathi, cela peut créer un cercle vertueux.
Si vous donnez des aides à une famille de classe moyenne, elle va en épargner une partie. Ces 50 millions de pauvres foyers, eux, vont les utiliser pour leurs besoins primaires et donc les dépenser. Cela entraînera une croissance locale et stimulera les usines qui produisent ces biens et qui pourront alors employer plus de personnes. J'estime que c'est ce dont l'économie indienne a besoin.
Cette mesure coûterait 46 milliards d'euros par an à l'État indien et le Congrès n'a pas précisé comment il la financerait.
Un reportage de Sébastien Farcy pour Ecodici, Eco d'ailleurs sur RFI. De toute façon, cette idée du Parti des Congrès est donc caduque puisqu'il n'a pas gagné les élections. Ce monde paysan indien, c'est une autre Inde que celle dont on parlait tout à l'heure, même si on parle des bidonvilles qui travaillent pour les grands groupes. Il y a deux pays en quelque sorte, Joël Ruet.
Oui, il y a deux pays. Enfin, d'ailleurs, en Inde, on dit il y a Bharat et India. Bharat, c'est l'Inde en hindi. Voilà. Alors là, j'aime beaucoup ce sujet. Et je pense que les idées ne sont pas caduques. Le parti du Congrès est caduque, a perdu les élections. Mais cette idée est très bonne. Et je pense qu'il y a besoin, dans cette partie moins développée de l'Inde, on disait 80% des exploitations ont moins de 2 hectares. En réalité, sur ces 80%-là, la médiane, c'est à 0,5 hectares. 0,5 hectares, c'est très petit pour avoir uniquement une activité agricole et pour avoir uniquement une activité agricole dont il faut comprendre que l'agriculture aujourd'hui devient de plus en plus capitalistique parce qu'il faut avancer de l'argent sur les semences, il faut avancer de l'argent sur les engrais, un petit peu, c'est pas des engrais bio, mais malgré tout, il faut avancer au moment de la récolte pour avoir des ouvriers qui travaillent pour vous. Donc c'est une économie capitalistique, l'agriculture. C'est l'une des économies les plus capitalistiques qui soient. Donc il y a besoin de microfinance, il y a besoin là aussi de formalisation, et je crois que ce qui était assorti à la démonétisation, c'était l'incitation que les gens les plus populaires aient un compte bancaire électronique, et ça, je crois que c'est une des voies de progrès. Donc ça, le compte bancaire électronique, c'est une idée de Modi et du BJP, mais l'idée du Congrès d'avoir des subventions directes me paraît excellente aussi. Je crois qu'en combinant les deux idées des deux camps, on peut vraiment moderniser l'agriculture.
C'est ce que pense Joël Ruet, mais Modi et
c'est ce que je pense sur la base. Alors, je rendons à César ce qui est à César. Si vous voulez comprendre l'agriculture indienne, il y a un livre qui existe, qui s'appelle The State of the Indian Farmer, qui a été dirigé par Yoginder Alag. Simplement, ce livre fait 30 volumes, parce que l'Inde, c'est complexe. Voilà. L'une des grandes leçons clés qui ressort, c'est de combiner cette économie de gauche et cette économie de la modernisation.
Jean-Luc Racine, vous l'avez sur vos étagères, ce livre en 30 volumes?
Non, je ne l'ai pas, mais il y en a qui sont plus resserrés. Non, évidemment, c'est une question absolument essentielle qu'il faut voir aussi, là encore, sous le plan politique. Parce que quand on entend les entretiens qui ont été conduits auprès des paysans, y compris ceux qui nous disent « j'ai voté Modi en 2014, mais cette personne. A-t-elle encore voté maudit en 2019? Parce que, fondamentalement...
Vous parieriez que oui?
Non, je ne sais pas, mais je pense qu'on
parce
peut...
Parce que lui semble dire qu'il a
lui
été abusé.
Lui semble dire que non. Mais ouais. Moi, ce que j'observe, c'est que le BJP avait 31% des suffrages en 2014, et il a 38% des suffrages en 2019. Ce qui veut dire qu'une bonne partie des gens qui ont pu être déçus dans une lecture, non pas macroéconomique, mais de ce qu'est véritablement l'économie vécue...
Leur sort.
Une partie d'entre eux, ou bien, a considéré que un petit nombre de choses ont été faites. Parce que quand le parti du Congrès annonce 900 ou 960 euros éventuellement par an pour les 20% les plus pauvres, c'est une expansion de ce qu'a été une initiative maudite de donner, c'était 6 ou 7 000 roupies par an, qui sont censés justement être sur ces nouveaux comptes bancaires, de gens qui étaient... Parce que la vraie
débancarisés,
question... Débancarisés. Oui, mais c'est une question essentielle, parce que la pauvreté rurale, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on n'a pas accès aux banques établies, et que donc on dépend des prêteurs. Et la définition du prêteur, c'est que le taux d'intérêt n'a rien à voir avec les taux officiels. Donc tout ça, oui, c'est des questions très complexes.
Des usuriers.
Mais ça rentre aussi dans les perspectives mises sur la table par Modi pour sa réélection, qui nous dit par exemple que demain, je pourrais vous prêter 100 000 roupies, excusez-moi, c'est pas tout à fait la même chose, à taux zéro. Où il y a tout un discours dans le programme du parti sur tout ce qui touche aux questions agricoles. Et là aussi, là je rejoins ce que Joël Ruet disait, la question du soutien financier distribué par l'État, ça peut donner toutes sortes de modalités, et ça c'est un choix politique. Mais c'est une question qui est véritablement sur la table, et c'est une façon différente de tenter de régler le problème en supprimant les dettes, ce qui est un classique des campagnes électorales.
Isabelle Joumard, comment réduit-on la pauvreté dans le monde paysan? Comment amène-t-on ces producteurs à produire et à gagner leur vie avec le riz, le blé qu'ils mettent sur les marchés?
Alors pour moi, le problème de l'agriculture, en fait, il est triple. D'abord, il y a une faible productivité qui vient, comme on l'a discuté, de la fragmentation excessive des terrains. Une faible mécanisation, quand on se promène dans des zones reculées, c'est incroyable, quoi. On voit même pas de brouettes, les gens portent tout sur leur tête. Le deuxième problème, c'est le prix des prix faibles pour maintenir l'accès à la consommation des autres couches de la population, essentiellement urbaines. Et la troisième chose dont on n'a pas parlé encore, c'est la question des subventions aux engrais, subventions à l'eau, subventions à l'électricité, qui se traduit, c'est un coût important pour le budget de l'État, et j'ai envie de dire, ça a des effets pervers, parce qu'il y a une surexploitation des terrains, une surutilisation des engrais, il y a une surutilisation de l'eau qui est une ressource rare en Inde, et donc on se retrouve dans un système agricole qui n'est plus soutenable, où il y a vraiment une pollution des sols importante, une raréfaction des ressources en eau, et je pense que ça ouvre la réflexion à savoir est-ce qu'on peut transformer ces subventions qui... par ailleurs, profite souvent aux producteurs les plus riches, est-ce qu'on peut les transformer en un mécanisme de revenus ciblé effectivement sur les agriculteurs les plus pauvres et aussi sur les journaliers, parce que ça, c'est aussi un phénomène important et qu'on a oublié dans la réforme récente qui vise à donner un petit revenu aux petits propriétaires terriens, mais quid des journaliers qui sont les plus pauvres des plus pauvres.
Qui n'ont que leurs bras.
Voilà. Donc je pense qu'il y a une possibilité de rendre plus efficace finalement les soutiens à ce monde agricole et paysan en transformant ces subventions qui ont été coûteuses et qui sont, j'ai envie de dire, avec beaucoup d'effets pervers pour un soutien aux revenus des plus pauvres.
Cette question de la pauvreté en milieu rural, c'est une question quasi universelle, puisque, par exemple, en Afrique, les plus pauvres sont aussi dans les milieux ruraux, ce sont les gens qui mangent le moins bien, qui ont le moins accès à une nourriture équilibrée, qui sont sous-alimentés. Est-ce que, dans ces campagnes indiennes, il y a encore toujours des problèmes d'alimentation, pour ne pas dire de famine, Joël Ruet ?
Alors de famine non, mais de malnutrition, oui. Les plus malnutris, c'est-à-dire les moins les gens qui ont une alimentation la moins diversifiée, la plus carencée, sont les enfants des paysans. Je répète, sont les enfants des paysans. Donc les gens qui eux-mêmes produisent l'alimentation ont leurs enfants, sont leurs enfants eux qui sont les plus malnutris. Pourquoi ? Parce que exactement ce qu'elle venait d'expliquer Isabelle,
Isabelle
Jumard, oui, de l'OCDE, qu'on a une distorsion dans l'utilisation des ressources. Moi, je signalais un problème de ressources, mais aussi une distorsion dans l'utilisation des ressources. C'est qu'il y a, d'ailleurs, beaucoup de ressources vont dans un cycle qui est donc pas assez mécanisé. Quand on dit mécanisé, c'est la petite mécanique. Hein, ça peut être mécanique plus emploi. En effet, c'est la brouette, c'est des outils. Des fois, on travaille à la main. Bon, c'est aussi le cycle de l'eau est un cycle aussi capital intensif. Alors, il faudrait plus investir dans la formation humaine, mettre en place le goutte à goutte, les technologies et puis aussi les petits outils du goutte à goutte qui vont économiser l'eau, etc. Permettre de diversifier aussi les semences, parce que lorsque vous achetez des semences très chères sur des cycles longs, il vaut mieux avoir des petites semences sur des cycles courts qui vous donnent des revenus réguliers. Il y a la question de la régularité des revenus. Et tout ça, il faut... Évidemment, les paysans sont proches de leur terre, on a une vision un peu naïve, mais tout ça, ça s'apprend, ça s'informe, etc. Il y a des expériences réussies en Afrique, justement, en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, pour réduire les cycles agricoles. Il y a des expériences, Dieu merci, aussi en Inde, la permaculture, ou aussi la culture, ce qu'on appelle des cash crops, c'est un petit peu d'horticulture, il n'y a pas que le blé, le riz. Enfin, moi je suis assez confiant sur... il y a une lente gestation, une lente mise en place, mais le monde agricole apprend beaucoup, et le monde des décideurs publics est en train de comprendre qu'il n'y a pas une solution unique et qu'il faut passer par la formation locale.
Alors. Jean-Luc Racine, vous êtes optimiste pour l'économie indienne ?
Ben, écoutez, moi il me semble que la vraie question est toujours la même. Le PNB...
Le produit national brut.
Le produit national brut, le taux de croissance, 7,5%, vous l'avez rappelé à l'ouverture de l'émission... par son produit national brut, l'Inde vient de dépasser la France, elle dépasse la Grande-Bretagne là dans les mois qui viennent, pour devenir la cinquième économie mondiale. Mais c'est une cinquième économie mondiale dont le produit national brut est l'équivalent de celui de pays de 65 millions ou de 70 millions d'habitants, alors qu'elle en compte 1,3 milliard. Donc, quand on joue avec les chiffres, on a d'un côté ces chiffres qui paraissent très prometteurs, et de l'autre côté, si on prend l'indice de développement humain, l'Inde n'est pas 5e ou 6e, mais 131e. Et ça, c'est une question clé. Et quand on voit ce qu'a été, dans le discours de victoire de Narendra Modi, la promesse extravagante de faire de l'Inde une économie à 5 000 milliards de dollars en 2025, c'est-à-dire en gros à doubler le PNB indien entre 2019 et 2025, et j'ajoute 10 000 milliards de dollars en 2032, là, on voit que dans l'esprit du Premier ministre, mais aussi dans l'esprit de son parti, on ne dissocie pas ce que sont les politiques économiques d'une vision de l'Inde régénérée, devenant une grande puissance. Et la question est centrale entre l'Inde émergente du discours international, l'Inde résurgente du discours indien, que ce soit celui du Parti du Congrès ou celui du BJP, et puis la volonté affirmée dans le feu de la victoire de dire « notre avenir, c'est d'être celui d'une grande puissance ». Mais la question, et on l'a vu avec l'évolution de la Chine, c'est comment on redistribue une part de la richesse nationale au plus grand nombre possible de citoyens. Et là, on est dans les deux cas, évidemment, dans une catégorie à part, celle des pays qui compte plus d'un milliard d'habitants.
Vaste question, beaucoup d'émissions à venir encore sur ce sujet. Merci à tous les trois, Joël Ruet, Jean-Luc Racine, merci. Isabelle Jumard. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez nous réécouter sur vos smartphones grâce à l'application de RFI Pure Radio en allant à l'onglet émissions. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.